Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Là, depuis que j'ai commencé la lecture de ce bouquin, je suis infiniment honorée que notre premier invité ait accepté de bouleverser son horaire aujourd'hui afin d'être avec nous autres. Il m'a fait un cadeau inestimable. Vous savez, quand les gens nous apprennent quelque chose, le savoir, il n'y a rien qui vaut plus cher. Puis je vous remercierai jamais assez, M. Paul Hall, de m'avoir appris tout ça dans votre essai « La planète des surhommes fortissimus ». Bonjour, M. Hall.
Bonjour, Marie. Comment
ça va? Je suis déjà émue. Ça va tellement bien. Merci infiniment. J'arrive même pas à m'imaginer comment on réussit à arriver avec tout ça placé dans le bon ordre pendant 600 pages.
Il s'agit de vivre assez longtemps pour le faire.
Mais ça, c'était une vieille idée, dans le fond, là, de ce que je comprends. Depuis 87 que vous pensiez à ça, mettre ça sur le papier, toute l'histoire des surhommes puis de la force.
Et en 87, j'étais quand même un peu plus jeune, mettons quelques décennies de moins. J'avais l'avantage, et quand on a un avantage de voyager pour un sujet, un voyage est toujours meublé de quelques hasards. Parfois, les hasards sont moins bons. Parfois, ils sont prodigieux. Le hasard, moi, a fait qu'en Islande, par une journée islandaise typique du mois de septembre, c'est-à-dire que le soleil se lève plus tard et se couche déjà beaucoup plus tôt, j'ai eu la bonne fortune de rencontrer Jan Paul Sigmarsson sans trop savoir à ce moment-là même qui il était. Et le hasard de cette conversation en plein gym où il s'entraînait à Reykjavik m'a fait découvrir un côté, je dirais, de l'humanité infiniment petit, mais que j'ai fini par appeler la planète, une planète pas loin de chez nous, un peu comme la galaxie à côté de chez nous, de ces quelques phénomènes qu'on voit apparaître tous les 25 ans et qui est purement un phénomène génétique, soit dit en passant.
Bien, fait génétique, mais que oui, si on met en chiffres...
Des hommes d'une taille au-dessus de la moyenne, particulièrement d'une masse musculaire au-dessus de la moyenne, nés par ce fameux hasard des rencontres de différentes souches génétiques. C'est une loterie, finalement. Un tel... en raison d'une conjugaison de gènes venant de. Ça peut être le père, le grand-père, du côté maternel, du côté paternel, combiné à autre chose. C'est des milliards d'occasions qui finissent par aboutir à dire qu'un tel individu vient au monde extrêmement fort.
Est-ce que c'est pas beau que un point 0000000 76 de l'humanité puisse avoir une histoire si riche au fil des millénaires?
Ben oui, ils ont des histoires, chacun a la sienne en passant. Ce qu'on fait quand on fait comme moi, j'ai mis la loupe sur ce phénomène, la rencontre de Jan Paul Sigmarsson m'avait marqué. Mais j'avais tellement d'autres projets et je n'étais pas à ce moment-là en Scandinavie. Je venais faire auparavant la Norvège. Je faisais des recherches pour Drakkar, le roman historique écrit, qui a été publié en 87, la même année. Donc, et tout de suite après, l'idée était là. J'avais des notes, j'avais mon agenda dans lequel j'avais pris quelques notes. J'ai dit « Ah, c'est spécial ». Et par la suite, bien sûr... l'idée m'était venue. Chaque année, je suivais à la télévision la compétition, le World Strongest Man, qui passait d'un pays à l'autre, un peu avec un effet carte postale. C'était le désir des organisateurs de nous faire rêver. Et outre que de voir la compétition de ces colosses, c'était également de nous suggérer peut-être, si ça se passait, par exemple, à Sun City en Afrique du Sud, avec les images, de dire « Ah, j'aimerais bien ça, aller là, passer quelques jours de vacances, etc. » C'était le but, en fait, des organisateurs. Mais en regardant avec un œil un peu plus exercé, admiratif également, il faut quand même le dire comme c'est, je me suis dit « Ben, un jour, peut-être, je pourrais écrire là-dessus. » Mais ça, c'était la grande idée, écrire là-dessus. Quand tu as ce genre d'idée-là, tu sais à peu près quand ça commence, mais tu ne sais jamais comment ça va finir. Et entre 1987 et 2023, il s'est quand même passé tout ça. Ma vie était ce qu'elle était. J'avais fait des choix littéraires entre-temps. Je continuais à faire dans le roman historique. Louis Cyr est venu. Lorsque Louis Cyr est venu, lorsque l'histoire de Louis Cyr, l'idée de faire la biographie de Louis Cyr m'est venue, en même temps, je me suis dit, ah, bon, peut-être que là, ce serait le moment de m'intéresser davantage à toute cette question. Mais c'était en 2003-2005 que la biographie de Cyr a été publiée avec un immense succès. J'en remercie d'abord le public avant tout qui m'a fait confiance, mais aussi l'éditeur à l'époque, Libre Expression, et ça a donné le film et ça a donné tout ce que l'on sait par la suite. J'avais donc accumulé une documentation qui était largement, mais largement au-delà de ce que j'avais besoin pour Louis Cyr et l'idée était là. J'ai dit, bon, ben là, le moment serait peut-être venu de faire ça. Mais entre les deux, j'avais fait Joe Monferrand, le tome 1, le tome 1 et le tome 2. J'étais pas loin de la chose, mais quand même, bon, Joe Monferrand, c'est quand même pas l'arrière-cour de ces hommes forts que l'on connaît et tels que je les ai décrits et tels que je décris l'histoire et la culture à travers les âges. Mais ça a été le prochain. Il y a eu, bien sûr, Cuba. Mais évidemment, Cuba, c'est...
C'était une brique aussi, là.
Une brique, c'est une histoire de cœur. Je tenais à raconter par le roman historique la révolution cubaine et ainsi de suite. Et il y a eu un hiatus ensuite de quelques années, 2014 à 2020. La pandémie, à qui je dis merci... Que je maudis de toutes les façons, mais à qui je dis merci de m'avoir donné suffisamment de temps, du matin au soir, tous les jours, pendant 880 quelques jours, pour écrire Fortissimus. Bon, c'était... Bien entendu, le nom m'appartient, il est... c'est une propriété intellectuelle, mais la compétition de 2008-2009, je sais, Marie, que vous vous y étiez beaucoup.
J'y étais.
Vous y étiez. Ça, bien sûr, le titre s'est immédiatement... le titre s'est proposé d'office. L'éditeur a accepté tout de suite le titre. Je lui ai donné quelques explications. Puis le sous-titre, La planète des surhommes, ben au fond... c'est un peu comme la planète des singes, la planète de ci, la planète des ça. C'est quelque chose qui est tout à fait particulier, qui sort de l'ordinaire, qui ne nous est pas donné de cohabiter tous les jours. Et si on a la chance, ou parfois la malchance, ça dépend, de connaître plus intimement un ou plusieurs de ces phénomènes, ben, ça nous amène encore plus loin dans la découverte, avec des surprises, les unes agréables et d'autres moins, et de pouvoir bien comprendre par quoi passent ces phénomènes que, il y a 100 ans, par exemple, on classait comme des phénomènes de cirque ou des attractions ou quoi que ce soit.
Oui, ben, qu'on a comme des êtres difformes, je veux dire, ils n'ont pas toujours eu bonne presse. C'est certain que, tu sais, pour quelqu'un comme moi qui est géographe culturel, j'ai étudié en anthropologie aussi, tu sais, vous avez vraiment tout placé, tu sais. J'apprécie que si vous faites un détour par Londres et qu'on est à l'époque de Jack l'Éventreur, vous ne manquerez pas de souligner tout ça, là, tu sais, d'avoir pris la peine aussi de faire le détour par les œuvres d'art, tu sais, de placer l'art là-dedans, parce que à quelque part, cette histoire-là, tu sais, dans vos sources, vous avez les ouvrages, vous avez les récits, mais vous avez aussi les poèmes, vous avez aussi les toiles, vous avez, tu sais, vous avez vraiment utilisé tout ce qu'on avait, parce que cette histoire-là, il y a une partie qui vient de la tradition orale, il y a une partie qui vient des légendes, il y a une partie qui vient des mythes, mais peu importe d'où ça vient, ça reflète toujours pareil ce qu'on est comme être humain, c'est-à-dire c'est que la force, ça reste pareil. Je vais juste utiliser la citation que vous avez en introduction de l'auteur allemand Walter Oeminger. Vous dites « Ce ne sont ni la beauté, ni la vertu, ni l'esprit qui furent chantés d'abord, mais la force physique et la victoire par les muscles. »
Est-ce que l'histoire nous le démontre. Quand on sait très bien que le Québec fut jadis extrêmement catholique, pour ne pas dire un des pays ou un des endroits les plus catholiques au monde. J'entends par là l'intégration de tous les rites de l'Église catholique romaine et de la puissance du clergé. Par conséquent, la force a habité le Québec, mais à travers, à quelque part, la religion. À l'époque de Louis Cyr, rappelons-nous que c'est l'époque de la fin du 19e, début 20e siècle. Dès lors qu'on parlait de Louis Cyr, on parlait d'un don de Dieu. Mm. On n'en avait rien à foutre de penser que tout ça pouvait s'expliquer peut-être scientifiquement. Des années plus tard, au moment où la biographie est sortie, j'ai reçu un courriel d'un docteur en génétique de l'Université de Montréal qui m'a demandé tout simplement « Auriez-vous un cheveu ou quelque chose qui pourrait me donner matière à essayer de voir par l'ADN s'il y en a suffisamment dans ce spécimen, par exemple ?» pour voir exactement de quoi il en était pour expliquer la force de Louis Cyr. Malheureusement, moi, j'avais une tresse de cheveux, mais à l'usage, je crois comprendre que cette tresse avait plutôt appartenu à Emiliana, sa fille, plutôt qu'à lui. Mais bon, cela dit, vous avez bien raison. L'exemple simple est de dire si demain matin, à la surprise, sans l'avoir annoncé par les médias, par les plateformes, les choses sociales. On disait, par exemple, qu'un homme fort débarque sur l'avenue Cartier à Québec et se met à faire une démonstration de force sans que le tout soit annoncé de quelque façon. En quelques secondes, sinon minutes, il va y avoir 1000 personnes qui vont se regrouper là pour regarder le phénomène en exécution, là. C'est aussi simple que ça.
C'est assurément. Alors, fait que c'est vraiment un culte universel et éternel.
Tout à fait. Quand on pense, par exemple, aux grands auteurs de l'époque, que ce soit Alexandre Dumas, Victor Hugo, enfin tous les grands écrivains d'un temps, en passant par d'autres écrivains plus contemporains, vous remarquerez qu'il y a une constante là-dedans. Chacun de ces écrivains, pour une raison ou pour une autre, va planter dans son roman ou dans ses écrits, simplement une trace ou un personnage qui détient comme qualité première la force physique. Mm. C'était le cas le plus probant ou les deux plus probants qu'on a. Ça a été Jean Valjean dans Les Misérables.
Oui.
Et, par exemple, le bossu de Notre-Dame, Quasimodo, dans Notre-Dame. Prenons juste ces deux cas-là. Il y en a plein d'autres qu'on retrouve à travers l'histoire. Ben, même Rabelais, avec son personnage de Gargantua. Et allons à la Bible, puisqu'on parlait tantôt de religion. Ben, la Bible, si on dit à même les fervents catholiques qui se targuent d'avoir lu la Bible, on leur demande qu'est-ce que vous retenez, qu'est-ce qui vous frappe le plus dans ça, à part de parler de la passion du Christ, mais si vous leur demandez dans l'Ancien Testament, la réponse unanime va être Samson.
Samson,
c'est lui. On a beau dire, ah oui, Moïse, lorsqu'il est descendu du mont Sinaï avec les 10 commandements ou quelques autres, mais c'est Samson qui est le personnage qui retient l'attention. Les cinéastes, plus tard, dans les années 60, quand ils ont fait les fameux peplums, comme on les appelle, là, les films italiens, on a parlé des western spaghetti, mais les peplums, sandal and sword, donc les sandales et l'épée, ben, écoutez, de qui on parle? À un moment donné, t'as Samson. Samson et Dalila, qui ont été l'objet de plusieurs films. Et cette histoire-là se perpétue, se répercute à travers les opéras, se répercute dans l'art. C'est phénoménal. J'ai fait le tour à peu près de toutes les œuvres d'art, que ça a été des sculptures, des peintures, des bronzes, des pièces miniaturisées, etc. Ce sont les personnages légendaires, les géants de l'époque, que l'on retrouve en plus grand nombre. Et lorsqu'on va dans les musées, ça se répercute également à travers les grands musées de la planète.
Et des fois, disparus, ils reviennent dans l'art, comme Milon de Crotone, qui disparaît pendant je ne sais pas combien de milliers d'années, puis qui revient dans l'œuvre de Dali et de d'autres. Tu sais.
Absolument, absolument. Et le problème qu'on a quand on fait une œuvre un peu, je vais le dire quand même modestement, mais c'est un peu encyclopédique, comme Fortimis, le livre, le seul problème qu'on a eu au niveau de l'édition, c'est le problème des photos. Le problème des photos, ça s'explique simplement. C'est qu'aujourd'hui, si vous prenez justement ce genre de photos, une pièce, par exemple, de la chute des géants, qui a été faite par Rembrandt et quelques autres, ça vous coûte des milliers de dollars maintenant pour acquérir les droits qui ne sont même pas des droits directs. Ça peut être les droits de la reproduction de la reproduction. Alors, il eût fallu une fortune pour vraiment rendre justice par la photo de ce qui est écrit. Évidemment, il y a des photos, il y a quand même au-delà de...
Il y en a nombre, c'est tellement intéressant, là.
65 photos dans le livre, mais nous aurions aisément pu avoir un corpus central dans ce livre avec photos couleurs de 300 ou de 400 photos. Mais je ne vous dis pas, Marie, le prix que cela aurait coûté à l'éditeur, et c'était même... Ça ne pouvait même pas s'envisager.
Je vais vous dire, imaginez, j'ai savouré toutes celles qui étaient déjà là. Il avait fallu que j'en aie 300. Moi, le colosse de Crotone, c'est ça son nom, le colosse? Celui qui est sur ses colonnes debout, là.
Le colosse de Rhodes.
Le colosse de Rhodes, je ne l'avais jamais vu, mais quelle prestance! C'est dommage que des... en tout cas, tu sais, il y a beaucoup de ces œuvres-là qui ont-elles existé, puis malheureusement, on ne peut plus les voir, tu sais.
Si vous allez aujourd'hui en Grèce ou si vous passez par l'île de Rhodes, bien entendu, on va faire état. Il y a des livres complets sur le colosse de Rhodes. Il s'est dit beaucoup de choses. Il y a encore aujourd'hui des expéditions sous-marines, des plongeurs émérites qu'on appelle généralement chasseurs de trésors ou chasseurs d'artefacts d'époque, qui cherchent encore aujourd'hui les traces de ce colosse dont l'ensemble du modèle avait été recouvert par des plaques de bronze à l'époque, là, afin que le reflet du soleil, pour les navigateurs qui arrivaient de très, très loin, leur indique que l'île de Rhodes était dominée par ce géant, par ce colosse. Et il a fait partie pendant longtemps. Je me demande, ça fait très longtemps que je n'ai pas été voir ça, mais je crois qu'aujourd'hui, en tout cas, il est certain d'une chose, il faisait partie des 8 merveilles du monde antique. Aujourd'hui, bien sûr, il y a beaucoup plus de merveilles que les 8 antiques, mais à l'époque, il faisait partie de celles-là.
Hey, sans aucun doute. Puis, tu sais, vous m'apprenez, tu sais, vous me dites, on fait encore des recherches. J'ai appris par votre écrit qu'il y a la profession de mythographe qui, dans le fond, de ce que je comprends, sont des gens qui font de la cartographie à partir de la mythologie.
Absolument, oui, c'est ça. Moi, évidemment, par intérêt historique, je me disais toujours, les 12 travaux d'Hercule sont à durer en principe 12 ans de notre calendrier. Un travail par année. Bien, quand on regarde les travaux, on comprend que ça doit être sacrément fatigant d'en faire un.
Bien, c'est toute qu'une sauvagerie en 12 ans, là.
Oui, surtout le taureau de Crète, il a couru après pendant un sacré bout de temps.
C'est-tu lui qui est le pire? C'est-tu vraiment le taureau? Parce que dans sa liste, là, le lion de Némée, le sanglier d'Hérimane, puis tout. Moi, je me dis tout le temps que c'est le nettoyage des écuries d'Augia qui a dit t'as le pire.
Ah ben oui, il détourne la rivière à l'été. Pour y avoir été, pour l'avoir vu, elle peut peut-être se détourner plus facilement l'été parce qu'il fait tellement chaud dans ce secteur de Olympie. Qu'on se demande qu'est-ce qu'il a bien pu détourner, parce que moi, j'ai vu cette rivière totalement asséchée. Et donc, on a marché sur le fond, comme si tu marchais sur une route où il n'y a que de la roche plate et tout ça, eh bien, tu ne peux pas marcher nu-pied parce que ces roches-là te brûleraient la plante des pieds au troisième degré. Donc, l'été, il peut se faire que dans des régions de la Grèce, et les gens qui sont allés en Grèce autrement que dans les îles grecques ont dû expérimenter des températures de 45 et 46 degrés. Et si on pense un peu à des effets climatiques, c'est des sujets très à la mode, évidemment, les changements climatiques. Il faut imaginer que c'est un secteur, tout ce secteur-là de la Méditerranée est sous un feu, le feu solaire incroyable. Donc,
fait que 12 travaux, là, affronter des juments mangeuses d'hommes.
Alors, l'idée m'était venue de faire un peu la géographie de ces déplacements, et on comprend que lorsqu'on regarde bien les chroniques des 12 travaux, à l'origine, ils étaient 10, ensuite, c'est devenu 12. Bien sûr, on se régale par la lecture, mais on essaie d'imaginer de façon concrète, sachant aujourd'hui que le personnage d'Hercule, comme tel, n'a pas existé, mais dans la vie quotidienne de l'humanité, il n'y a pas une journée où quelqu'un, à quelque part, ne parle pas d'Hercule ou ne va dans un musée et ne voit pas des reproductions d'Hercule.
Et ça a une symbolique tellement lourde, M. Hall.
En 2019, écoutez, là, l'année m'échappe un peu, mais c'est en 2018 ou 2019 que The Rock, en fait, Dwayne Johnson, a fait le dernier Hercule qui a été fait à l'écran. Il est quand même rentré pas loin de 450 millions. Il faut quand même qu'à quelque part, outre les fans de du Rock qui vont aller voir n'importe quoi, même s'ils se promènent à trois pattes à un moment donné dans un film, ils vont y aller parce qu'ils admirent le personnage ou l'acteur, ça a quand même fait 450 millions. Un film qui fait 450 millions US de nos jours, qui a coûté entre 150 et 200 millions, c'est quand même un bénéfice net extrêmement intéressant.
C'est un bonheur.
À travers l'histoire du cinéma, il y a au moins une cinquantaine de films sur Hercule qui ont été faits, dont plusieurs en Italie, bien entendu. Mais il y a quand même une cinquantaine de films. Et dans la cinquantaine de films, il y a quand même 30 culturistes de renom qui ont incarné le personnage.
Et c'est le nom qu'on va toujours utiliser, même au fil de l'histoire. Quand quelqu'un est réellement fort, on va toujours lui donner le surnom d'Hercule.
Il est dans tous les dictionnaires les plus réputés, le Robert, le grand dictionnaire Larousse de la langue française et tous les autres dictionnaires, aussi en anglais qu'en français. Allez voir les Harper's ou le Oxford, n'importe lequel, vous allez trouver ce nom duquel on a décliné l'adjectif herculéen, etc., et qui fait partie de la littérature et qui est abondamment utilisé pour illustrer toutes sortes de situations utilisées par les romanciers, utilisés par des poètes, utilisés par, même dans le langage courant.
Utilisé par votre animatrice, ma première voiture, M. Hall, était une Toyota Tercel 4x4 et je la trouvais drôlement forte. Je l'appelais Hercule.
C'est ça, exactement. Alors voilà, on voit que ce que l'auteur peut vous dire aujourd'hui dans cette entrevue, Marie, c'est que j'eus aimé en faire 800 pages plutôt que 1000 pages parce que c'est un sujet qui est nécessairement inépuisable. On peut pas l'épuiser. Exemple, la dernière date qui est mentionnée dans le livre, c'est le 20 août 2022. Et le livre a été publié parce qu'on a fait une correction de dernière minute. Il y avait un événement, on a réussi à l'entrer à l'imprimerie. Donc, on parle du mois d'août. Or, cette année, en 2023, il y a un événement extraordinaire pour la force au niveau Canada qui s'est produite. On a eu la longue histoire de Jean-François Caron, plus grand homme fort de l'histoire moderne, mais arrive un Mitchell Hooper, qui est un Canadien, ontarien, qui a été, pendant la pandémie, coincé en Australie, mais qui a pu s'y entraîner. Il est devenu le premier Canadien de toute l'histoire à remporter et le Arnold Classic, le Arnold Strongman, qui est une des deux compétitions les plus prestigieuses, et le World Strongest Man en mars Exactement, en avril. Là. Bon.
Mais vous ne pensez pas que c'est un cadeau que ce soit arrivé, justement, puis que vous ayez encore la possibilité de l'ajouter à la fin? Parce que, dans le fond, l'histoire n'était pas complète sans que quelqu'un gagne les deux compétitions, parce que l'une sans l'autre, on n'arrivait jamais vraiment à savoir si réellement on avait devant nous l'homme le plus fort de tous les temps. Là.
Ça, c'était de tous les temps, on le connaît. Et pour l'instant, on n'est pas à la veille d'y toucher à ce gars-là. Mais du moins de toute l'époque moderne. C'est Dronas Savickas de la Lituanie. Incontestable. D'ailleurs, j'ai un chapitre entier, le dernier chapitre qui lui est consacré. C'est pas demain la veille qu'on va arriver à égaler même les statistiques. Le nombre de compétitions, le nombre de victoires, le nombre des titres les plus importants qu'il a remportés à de multiples reprises, etc. Mais pour le Canada... Et c'est un peu mon petit malheur que je me mets dans mon agenda, c'est que j'eusse aimé que les deux victoires de Mitchell Hooper arrivent l'année dernière. J'aurais pu en parler à ce moment-là dans le livre, mais non, c'est arrivé donc cette année. Ça fait à peine 2-3 mois qu'il est un des 3 ou 4 qui a maintenant remporté les 2 titres majeurs la même année, tout en étant le premier Canadien de l'histoire à remporter le titre du World Strongest Man et le premier Canadien de l'histoire à remporter le titre du Arnold Strongman Classic. Ce que j'ai beaucoup aimé de Mitchell Hooper, c'est que dans les entrevues qui s'en sont suivies, suite à sa victoire au World Strongest Man, il a rendu hommage à Jean-François Caron en disant que c'est grâce à Jean-François Caron et au système de développement du circuit homme fort Canada, que lui, Mitchell Hooper, a pu avoir la chance de finalement mener à terme la quête des Canadiens. Donc, celui qui était passé le plus près, c'était en 1982, Tom McGee, dont je parle d'ailleurs dans le livre, qui était arrivé deuxième derrière l'inclassable Bill Kazmaier, mais Jean-François Caron, évidemment, avec la somme de toutes ses compétitions et de ses succès, mais Mitch Hooper est celui qui a mis, comme on dit, la cerise sur le sundae.
Puis, je trouve, parce que, tu sais, si on revisite, quand vous revisitez les 100 dernières années, tu sais, du moment où l'haltérophilie va faire son entrée dans le dictionnaire, même si ça va prendre du temps avant qu'elle arrive aux Olympiques, tout, je trouve qu'on a perdu énormément de temps, finalement, autant, tu sais, quand va venir la dynamophilie, puis tout, à fixer tout ça au niveau de qu'est-ce qu'on veut comme épreuve et de quelle façon on départage les gens. Tu sais, c'était vraiment long, puis c'est intéressant de savoir que là, maintenant, on y arrive enfin à savoir qu'est-ce que c'est un homme fort, tu sais.
Là-dessus, oui. La science, elle a beaucoup aidé, premièrement. Deuxièmement, la raison pour laquelle ça a été tellement long, entre 1890 et 1920, où l'haltérophilie finalement a fait son entrée officielle, elle l'a fait 2 fois avant, mais officielle aux Jeux olympiques d'été à Anvers, en fait, en Belgique, ça a été la politique. Ça a été les affrontements entre des têtes fortes. Ça a été le fait que l'un ou l'autre, qu'il soit prussien, autrichien, belge, français ou anglais, le Canada à l'époque n'était pas vraiment un facteur déterminant dans ces grandes discussions et ces congrès qui se passaient généralement quelque part dans les pays germanisés ou alors anglophones. Ça a été des écoles de pensée qui se sont affrontées. Les uns voulaient qu'il y ait tant d'épreuves, les autres voulant qu'il y ait tant de choses. Pourquoi? Parce que dans leurs pays respectifs, c'était ça que...
You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Passé. Or, au plan international, ils voulaient imposer ce qui se passait dans leur propre pays pour mettre à leur profit les chances de remporter des victoires olympiques, enfin des médailles.
Ah, fait que tout le monde tirait sur la couverture pour pouvoir s'avantager.
Et il y avait des méchants numéros à l'époque là-dedans. Là. En plus de ça, ces sports-là, du moment que les Jeux olympiques ont été mis en place en 1896, il faut bien penser que c'était l'aristocratie qui menait tout ça. Tous les membres du comité olympique d'origine avaient des titres de noblesse ou encore des grades élevés dans les armées respectives. Par conséquent, c'était ces gens-là qui décidaient. Et comme le concept de l'amateurisme n'était pas véritablement encore défini avec toutes les nuances, eux ont décidé que l'amateurisme pur et dur, c'était simplement quelqu'un qui, en aucune façon, de quelque façon que ce soit, aurait touché la moindre somme d'argent pour récompenser ses efforts ou quoi que ce soit. Évidemment, ça excluait un paquet de monde, tout simplement. Et l'haltérophilie, en plus, comme Pierre de Coubertin n'aimait pas les haltérophiles, parce qu'ils n'aimaient pas le look de ces personnages qu'ils trouvaient gros, qu'ils trouvaient justement, qu'ils classaient subjectivement comme étant des phénomènes de foire. Mmh. Parce que l'homme fort de départ, classique, était quelqu'un qui se produisait dans des vaudevilles, dans des
cirques, les music halls.
Les cirques ambulants, et ainsi de suite. Or, ces personnages-là étaient des phénomènes, et puisqu'ils étaient des phénomènes, ce n'étaient pas des éléments qui convenaient, si on veut, à la noblesse présumée des sports classiques, comme par exemple la rame, comme par exemple l'athlétisme lui-même, et ainsi de suite. Alors, on a toléré en 1896 une démonstration qui a été loin d'être déterminante. L'année suivante, en 1900, ça a été vraiment peu digne de quelque chose. Puis en 1904, à Saint-Louis, ben là, ça a été le bout du bout. Ils ont mis les haltérophiles dans un champ à l'autre bout et en disant carrément que c'était quelque chose de mineur. Et effectivement, il y avait juste quelques spectateurs qui voyaient ces pauvres bonhommes-là essayer de lever des poids qui, à l'époque, étaient de fonte avec des boules sans que les règles soient trop fixées.
Ah.
C'est malheureusement comme ça que l'haltérophilie a dû se battre contre les préjugés, premièrement, contre ensuite des décisions politiques qui ne tenaient vraiment pas la route au vu de la démocratisation du sport et du droit de pouvoir monter la force à la place qui lui revenait de droit. Pensez-y, la devise olympique était « Sitius altius fortius », donc « plus haut, plus vite, plus fort ». Mais ce n'est qu'en 1920, finalement, que là, après la Première Guerre mondiale, qu'on a décidé, OK, on fait des choses. La Fédération internationale était mise sur pied, la représentativité des nations était là, il y avait plusieurs pays à ce moment-là qui avaient des fédérations nationales, et troisièmement, la volonté également était là, et il y avait surtout des athlètes qui étaient dignes à ce moment-là, les deux Français notamment, Charles Rigoulot puis Cardine, qui ont été des gloires nationales en France et qui se sont imposés. Chacun y a rapporté des médailles d'or, l'un en 1920, l'autre en 1924. À ce moment-là, l'haltérophilie était lancée.
Oui, mais c'est plate parce que autant l'arrivée, finalement, tu sais, vous parlez des années de propagande, là, celle où finalement le capitalisme et le communisme vont s'affronter à grands coups d'haltère. Ces années-là, ça n'a pas aidé non plus pendant la guerre froide, là, le sport.
La guerre froide, c'était très clair. Il n'y avait aucune limite à ce que les uns et les autres pouvaient faire pour remporter la victoire. Pour les Russes, Je préfère dire pour les soviets, parce que là, on parle de l'Union
oui.
des républiques socialistes soviétiques. On parle donc de l'URSS, composée de la Russie et de pays satellites au nombre de 17. Alors ça, c'est déjà une chose. Il y avait là une force extraordinaire. Et il y avait une volonté politique. Ça partait directement du présidium. Ça partait directement d'en haut, comme on dit. Il fallait que le sport devienne un outil de propagande majeur pour revendiquer la supériorité du communisme sur le capitalisme. L'équation, c'est comme ça qu'elle se posait. L'haltérophilie est devenue un sujet également majeur en disant que le pays qui va remporter les concours d'haltérophilie dans les différentes catégories était le pays qui pouvait se prétendre celui qui avait le plus d'hommes et de femmes fortes au monde. Et c'était donc un élément majeur dans le discours propagandiste du côté de l'URSS. Du côté américain, ce n'était guère mieux. Du côté américain, ils ont à la longue piraté le système de dopage qui avait commencé dans les années 60 en URSS, donc dans, en Russie et dans les pays satellites. Les pays satellites, celui qui est le plus ciblé était bien sûr la Bulgarie, avec des entraîneurs extraordinaires, des méthodes d'entraînement féroces et des recours à des produits dopants de puissance 10, comme on dit.
Ouais.
Les États-Unis se sont pas gênés non plus. Les États-Unis, lorsqu'ils ont trouvé les formules chimiques, le docteur Ziegler notamment là-dedans, dans les années 60, ils se sont éclatés la panse, eux autres aussi. Et malheureusement, ils ont perdu la course. Et jusqu'en 1992, jusqu'aux Jeux de Barcelone, ben, ne nous gênons pas. Les pays, ben, il y a eu la chute, bien sûr, du mur de Berlin, il y a eu l'effondrement de l'URSS, mais jusqu'en 92 encore, les pays socialistes avaient nettement l'avantage dans toutes les catégories de poids au niveau de l'haltérophilie, ça c'est clair. Les plus grands haltérophiles de l'époque étaient soit des Russes, des Ukrainiens et des Bulgares, les trois pays. À l'époque, l'Ukraine faisait partie, bien entendu, de l'URSS, mais l'Ukraine comme telle était fournisseur d'un nombre important d'haltérophiles, comme d'ailleurs maintenant encore, dans le monde des hommes forts du strongman, il y a au moins trois ou quatre Ukrainiens qui sont dans le top 5 mondial.
Mais c'est juste pour, parce que je suis encore subjuguée que cette époque-là de propagande puis de dopage soviétique s'est poursuivie jusqu'en 92. Vous oui. portez à notre connaissance dans Fortissimus une espèce de secret qu'en 88, même pendant les Jeux de Séoul, il y aurait eu un navire qui aurait été au large.
Oui, c'est un navire laboratoire.
Et
dans ce navire laboratoire, je ne sais pas politiquement comment les choses s'organisaient. Est-ce que ce navire, en étant dans des eaux, était-il ou pas à ce moment-là dans les eaux internationales? Je n'ai pas été jusque-là, mais faisons l'hypothèse que le navire était dans les eaux internationales. C'était génial de faire ça, parce qu'en étant dans les eaux internationales, on ne pouvait pas aborder ce navire sous un prétexte ou un autre et le fouiller. Mais le navire, à coups de millions, était un laboratoire carrément au service des athlètes de l'Est, et dans lequel, bien entendu, il y avait de tout, y compris l'essentiel, c'est-à-dire les dosages et tout ce qui était requis pour les athlètes. Et en 92, on était à 4 ans seulement du scandale Ben Johnson.
Oui.
Comme moi, je n'ai jamais appelé le scandale Ben Johnson, j'ai appelé ça le scandale international du dopage, dans lequel Ben Johnson n'a été simplement qu'une victime. L'enquête d'Aubin, par la suite, a bien démontré que Ben Johnson, non seulement n'était pas le seul qui avait les mains dans la farine, mais il y en avait tout un paquet autour de lui. Il y avait un de nos hommes forts, d'ailleurs, Bishop de Liebitz, qui le premier, en 1904, dans ces années-là, de l'enquête d'Aubin, est venu témoigner en disant « Moi, that's it, je suis là-dedans depuis des années ». Il était rendu coach universitaire. On a eu nos propres Canadiens, nos haltérophiles canadiens. Canadiens qui ont passé à la moulinette parce qu'ils avaient remporté des médailles déjà aux Jeux de Los Angeles en 80. Ils étaient pleins comme des œufs à ce moment-là. Alors, personne n'y a échappé.
Non, puis aucun sport non plus de force. Je veux dire, on était, là, on m'a parlé d'athlétisme, on était dans le cyclisme, dans le football, les sports de combat. Tout le monde va finir par être contaminé par ça.
Nous étions contaminés à partir des années 70 déjà. Mais dans les années 70, il n'y avait aucun protocole au niveau du CIO, du Comité international olympique. Il n'y avait aucune liste de produits dopants interdits à ce moment-là encore. La commission médicale du Comité olympique international n'existait pas encore et il n'y avait aucun code de comportement ou de déontologie applicable à quelques fédérations internationales et nationales par la même circonstance qui prévalait. Donc, c'était au plus fort la poche à ce moment-là.
Est-ce que c'est pas étrange, pareil, que quand vont avoir lieu les Jeux olympiques de Montréal, puis que là, on va arriver qu'une première liste de produits interdits, oui. OK? Oui. Puis même là, jusqu'au moment où l'Agence mondiale antidopage va sortir la sienne là, dans les années 2000, est-ce que c'est pas étonnant, pareil, que la dynamophilie puis le culturisme, eux autres, ils n'ont pas d'interdits? Ils font comme pas partie de ceux qui doivent s'astreindre à cette liste-là.
Et tout à fait, ça s'explique, Marie, comme ceci. Vous avez bien posé la problématique. Pourquoi un et pas l'autre et pas les deux autres? Pourquoi? Commençons par le culturisme. Le culturisme a appartenu pieds et poings liés à la famille Ben et Joe, quand je dis la famille, aux deux frères, Ben et Joe Wader, depuis 1948 ou à peu près, où les deux frères ont mis en place l'entreprise Wader, de façon très modeste, à partir de Montréal. À partir de ce moment-là, leur entreprise s'est développée. L'entreprise s'est développée sur deux fronts. Trois, je pourrais dire. Le premier front, c'était la production de matériel d'entraînement destiné à la maison, à la famille. Vous achetiez sur catalogue ou autrement, ou même en magasin à ce moment-là, ce qu'on appelle un set de poids. Le set de poids Wader était composé de ceci et de cela. Il y avait quelques plaques, des plates, là, des disques. Il y avait la barre, il y avait les deux petites barres. Et avec ça, il y avait un livret d'instructions, quelques exercices proposés. Très rapidement ensuite, les Wader ont développé les produits, les suppléments Wader. Et les suppléments n'étaient pas encore de la poudre à ce moment-là. C'était pas encore en poudre comme aujourd'hui. On ne parle pas ici de viol, et de piqûres ou quoi que ce soit. On n'en est pas rendu là. Mais on parlait de suppléments en capsule, le foie desséché et d'autres trucs semblables. Bon, ça, c'est la deuxième ligne de développement des Wader, toujours au Canada au début et toujours surtout au Québec. Et en troisième ligne, dans la période plus moderne, et surtout à partir du moment où Arnold Schwarzenegger arrive aux États-Unis, sur commande de Wader.
Sur télégramme de Wader.
Oui, qu'ils l'ont installé, payé son loyer, payé sa nourriture. Il était payé pour s'entraîner, et il était décidé à l'avance qu'il deviendrait le prochain multi-monsieur Olympia. Bon. En retour de quoi, il s'engageait à leur fournir son corps, son image, sa réputation pour répandre à travers le monde l'image du culturiste idéal. Et ça leur a valu des centaines de millions de dollars. Et à partir des années 2000, les entreprises Wader sont devenues à travers le monde milliardaires.
Oh,
donc, c'est la partie culturisme. Et donc, jamais ce milieu-là n'a revendiqué être un sport. La Fédération internationale du culturisme, la IFBB, International Federation of Bodybuilders, c'est une fédération internationale qui a légèrement inscrit à un moment donné des choses où il suggérait, bien entendu, qu'il préférait un culturisme intégral non atteint par, les produits anabolisants et ainsi de suite. Ce qui n'a absolument rien à voir avec la réalité. Je vous rappellerai qu'à un moment donné, la célèbre phrase écrite par le deuxième frère, celui qui a développé aux États-Unis, qui avait dit... Moi, je ris chaque fois que je vois la phrase, j'en ris, là. Dans une sorte d'autobiographie, il dit « Quel que soit le sport, les produits dopants sont présents. L'un ne va pas sans l'autre pour quiconque veut être un champion. Dans le culturisme professionnel, ne cherchez pas un nom en particulier, tous le font. » Alors, lui, là, il venait de clore le débat, point à la ligne. À partir du moment où Arnold Schwarzenegger a annoncé que, avant de venir même aux États-Unis, lorsqu'il était en Autriche, il avait découvert que des culturistes avaient accès à des produits. Il dit qu'il est allé voir son médecin. Le médecin lui a donné une prescription tout à fait légale. Il est allé en pharmacie et il a pris les agents dopants qui étaient des stéroïdes. Et il a dit « J'ai suivi scrupuleusement la prescription médicale qui était tout à fait légale. »
Oui, mais il n'y avait pas les connaissances pareilles. De, je veux dire, quand on est rendu à Barry Bonds et Chris Benoit, on en sait beaucoup plus.
Oui, ça, c'est le stanozolol à ce moment-là, qui est quand même aujourd'hui considéré comme une drogue, comme un produit anabolisant entre les deux. Il y a beaucoup plus puissant que ça maintenant.
En plus!
Mais Arnold, bon, il a pris ce qui était sur le marché à cette époque-là. Il savait très bien que tout le monde en prenait. Lorsqu'il est venu aux États-Unis, tout le monde en prenait déjà.
Oui, puis tout le monde allait vouloir en prendre parce que tout le monde voulait être comme Schwarzenegger.
20 ans plus tard, lorsqu'on lui a posé la question, il était déjà gouverneur de la Californie. Si vous aviez à le referiez-vous? Il a dit certainement. Point final.
Oui, mais par exemple, juste pour les Weber, là, je comprends bien pourquoi le culturisme a été exclu. C'est juste qu'eux autres, dans leur attitude, si je comprends, c'était comme le développement du volume puis de la masse musculaire.
Bien, il y a eu trois étapes dans le culturisme.
C'est ça.
Le culturisme qui a voulu être la culture physique idéale, c'est-à-dire un corps harmonieux, proportionnel selon les mesures qu'on acceptait à l'époque, le cou, le biceps et le mollet.
Les règles des tiers.
Etc., etc. Jusqu'à l'époque des mutants, qui est l'époque d'aujourd'hui.
Ce que vous appelez la Juice Generation.
Ah oui, c'est la Juice Generation, celle-là. Oui, c'est les freaks.
Mais le pire, c'est qu'ils ne sont même pas bons, puis surtout, ils ne sont pas forts, comme la masse nous le dit dans le miroir.
Lorsque vous avez un individu qui a une ossature athlétique moyenne, qui devrait à 5 pieds 8 ou 5 pieds 9 peser 180 livres, puis qui en pèse 300, et qui est essoufflé après avoir monté trois marches pour aller poser devant un public d'avance, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond sur la planète, comme on dit.
Ouais.
Et
ouais.
Lorsque vous avez des individus comme ça, qui ont de 6 à 8 millions de personnes qui les suivent sur les plateformes sociales, il y a quelque chose qui tourne pas rond au pays du Danemark, comme dirait l'autre.
Oui, puis là, on n'est plus dans la force génétique dont vous nous parlez. Là,
en 40 ans, Marie, nous sommes passés de cette génération de culturistes intégrales qui travaillaient très fort en gym, qui développaient un physique extrêmement remarquable, en masse musculaire maigre et autres, qui avaient développé l'art de la pose et tout, à une époque d'aujourd'hui qui est l'époque des freak shows,
ouais.
Une époque de mutants, et qui est une époque où des culturistes de ce niveau-là mettent en péril directement leur espérance de vie en sacrifiant de 20 à 25 ans sur leur probabilité d'espérance de vie en temps normal.
C'est un drôle de choix, tu sais. Je repense à Eugène Sandow, en plus, qui était, lui, était une œuvre d'art, tu sais.
Voilà. Mais
on est ailleurs, là. On n'est plus dans le corps et l'esprit, en tout cas.
À votre question, pourquoi l'haltérophilie et non pas la dynamophilie ou le culturisme, quand on parle de dynamophilie, écoutez, la dynamophilie, là, j'aimerais beaucoup, beaucoup avoir contact avec toutes les 17 fédérations qui supposément régentent ce sport. Il y en a 17 en tout. Il y en a de tous les genres. Il y a celle qui, au départ, est ce qu'on appelle la fédération reconnue, qui demande qu'on ne porte pas de triple saut ou d'habits performants.
Oui, Le maillot à plis, entre autres.
Le maillot à plusieurs plis, les doubles ceintures, les courroies de protection.
Les sangles de poignet.
Et tout ça par rapport à celles qui l'autorisent et qui sont majoritaires maintenant. J'aimerais beaucoup voir le budget qui est consacré aux tests anti-doping. Mon opinion, à 90%, voilà.
Voilà. Parce que je sais qui je vais questionner, en tout cas, parce que vous parlez de Daniel Bérubé dans votre bouquin, hein, qui est un homme que là, je...
Daniel, je lui rends d'ailleurs hommage.
Ah, faites-le.
Daniel, qui a été un fondateur, un précurseur, un promoteur et un homme, un chef d'entreprise. Daniel Bérubé est l'homme qui a détenu pendant quelque temps le record mondial du développé au banc, communément connu comme le bench press, à au-delà de 600 livres, à un poids corporel probablement, je n'ai pas les chiffres exacts de Daniel Bérubé, mais dans les 230-240 livres. Mais à l'époque, le développé au banc n'avait pas allégé ses exigences. La personne devait reposer à plat sur le banc. Aujourd'hui, ils ont le droit de s'arquer complètement. Il n'y a que deux points de contact qui sont... Bon, c'est la base des fesses et les épaules. On peut arquer le dos. À l'époque, les personnes devaient être à plat sur le dos. Le dos devait être en contact avec le banc. Ce qui a probablement privé à l'époque, Daniel Bérubé, d'un autre 50 ou 60 ou 75.
De plus.
Voilà. Deuxièmement, Daniel Bérubé a développé d'autres athlètes. Le plus connu étant évidemment Marco Fortier, qui lui a détenu un record du monde à 274 livres de poids corporel, 914 livres et demi, je crois, à la flexion de jambe. C'était remarquable. Et là, on comprend. On parle de record du monde, là. Et il y a un record canadien. Comme record canadien, il a duré au-delà de 21 ans, ce record-là. Alors, on imagine un peu, et ça, c'est Daniel Bérubé qui a fait cette chose-là.
Oh, je suis heureuse que vous lui rendiez hommage, parce vous savez, il s'implique aussi dans la course automobile. Puis, je veux dire, c'est quelqu'un qui...
Il est probablement, Daniel Bérubé, celui qui est l'entrepreneur... Le chef d'entreprise qu'il a été, il a réduit, j'ai cru comprendre qu'il a réduit quand même de ce côté-là ses activités, qui a le plus encouragé divers sports, parmi lesquels la boxe amateur, le MMA, le Mixed Martial Arts, le culturisme, la dynamophilie, le strongman, et qui en plus a été le commanditaire principal de plusieurs athlètes de pointe qui, sans l'argent que M. Bérubé a mis, ne serait jamais parvenu aux résultats qu'ils ont obtenus. Alors, je lui rends cet hommage tout à fait mérité. Je pense bien que Daniel Bérubé m'en voudra un peu en disant « Wow, charrie pas ». Je ne charrie pas. Il est, on a parfois je ne sais pas comment on dit ça, cette mauvaise habitude au Québec que lorsque quelqu'un monte, on a le plaisir de le descendre, tu sais. Ben moi, je pousse dessus, parce que Daniel Bérubé a été exemplaire, et ça, ces interventions-là de M. Bérubé, qui probablement, si on mettait tous ses argents et tout ce qu'il a fait en promotion et en commandite, ensemble, on serait dans le, je dirais, proche probablement de 2 millions à 2 millions et demi au cours des 25 ou 30 dernières années.
Et il continue encore. Quel grand monsieur. Moi aussi, je vous salue, M. Bérubé. Je vous aime beaucoup. Alors, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est le propriétaire de XPN World qu'on peut voir là, sur les chars de course, en tout cas pour ceux qui me suivent à l'autodrome Chaudière. Monsieur Hall, OK, c'est certain qu'on ne fera pas le tour aujourd'hui. Puis je suis contente, on n'a pas, abordé le sujet du levage des pierres. OK, si vous voulez, on se le garde. OK, on se le garde. Comme ça nous donnera un prétexte pour se repartir sur une autre conversation. Mais, tu sais, je veux juste dire aux gens, parce que moi, votre livre, me permettez-vous de le prêter ad nauseam autour de moi? C'est important.
Ça me ferait grand plaisir, Marie.
Non, mais c'est important. Le prochain, c'est Daniel Bérubé. Je vais y mettre drette dans les mains quand je vais le croiser, OK? Il y a tellement d'anecdotes là-dedans. Je veux dire, j'aurais pas pensé qu'à un moment donné, moi, j'ai écouté les Game of Thrones, fait que je pensais pas que la montagne allait apparaître. J'ai pas pensé que Darth Vader allait apparaître au fil des pages non plus.
Mettons qu'il est Thor Bjornsson. On parle de Haftor Bjorn, Halfdan Bjornsson, Julius de son premier prénom. Il a été au cours des 10... Non, il a été jusqu'en 2018, pendant une période de 9 ans, le top 3. Il y en avait 3. Zydrunas Savickas de la Lituanie, Brian Shaw des États-Unis, auquel je rends hommage en particulier, et bien entendu, le king des kings, le roi des rois, Zydrunas Savickas de la Lituanie.
Que je peux pas croire que j'ai vu à Fortissimus.
Exactement. Alors voilà.
Je me sens béni d'avoir vu comme ça le grand champion, peut-être, ouais. Probablement, tu sais, en tout cas.
Si on parle du trône de fer de Game of Thrones, ben on pourrait dire que dans le trône de fer de la force, surtout de l'époque moderne, ben voilà les trois prétendants à ce trône et les deux autres ont très gracieusement signifié à Zydrunas Savickas, en raison de son palmarès, qu'il avait la place d'honneur, donc, directement sur le trône. Mais on peut dire que les deux autres sont assis à sa gauche et à sa droite.
Comme autour du bon Dieu. Oui. Monsieur Hall, c'est un moment incroyable. Je veux dire, j'ai savouré chacune des pages, puis je viens de savourer chacune des minutes en votre compagnie. Moi, je garde ma recherche, parce qu'il y a beaucoup de pages autour de moi, là. Je garde ça précieusement, puis je me dis qu'on va se faire une suite, OK? Il y a trop de sujets qu'on n'a pas abordés, parce qu'au fil de 4 millénaires, c'était certain qu'en une heure, on ne ferait pas le tour, là.
Le levage de pierre, en soi, comporte des mystères absolus, que j'ai eu l'honneur de démystifier un peu. Et écoutez, si d'aventure cet été vous avez l'occasion ou ça vous dit de parler de ces leveurs de pierre dont certains, on les retrouve en Mongolie, on les retrouve au Tibet, on les retrouve au Japon, en Chine, on les retrouve dans les îles et en Polynésie française. Ça va me faire grand plaisir.
Vous pouvez être certain qu'il y aura une suite à cette conversation-là. D'ici là, faites juste me dire, vous travaillez sur quoi présentement? Est-ce que vous êtes au repos après un...
Oui. Oui. C'est un oui très, très brutal. Hein? Après un ouvrage comme ça.
Mais c'est titanesque.
Et oui, ben voyez comment les adjectifs découlent des grands noms. Titan, titanesque, colosse, colossal, Hercule, herculéen. J'ai eu besoin de faire le vide après avoir fait un gros plein comme ça. Actuellement, je fais ce que j'aime le mieux. J'ai repris l'entraînement de façon très sérieuse, de 5 à 6 fois par semaine.
Grand homme, érudit, homme de tous les défis. Oui. Ben, occupez-vous de vous. Nous, on se retrouve dans pas longtemps. Puis j'invite les gens à se le procurer, à l'offrir même. C'est un cadeau. C'est un voyage au travers du temps. Puis comme je l'ai dit en ouverture, il n'y a pas de plus beau cadeau que celui du savoir. Fortissimus, la planète des surhommes, c'est aux éditions Urtibrise. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce midi. Je vous aime.
Merci à vous, Marie. Puis bonne suite. Vous êtes une animatrice formidable.
Je vous aime, puis je passe tous vos beaux mots à Daniel Bérubé.
OK, merci.
Allez, au plaisir.
Au revoir.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.